On joue sur les vitesses de fermentation et on joue surtout sur les variétés qu'on met dans le cidre, quoi. On fait des choix de pommes, voire même on met qu'une pomme. C'est très expérimental. On fait quand même qu'une seule fois du cidre dans l'année.
Et puis on s'est rendu compte aussi que ça vieillissait bien et que ça pouvait s'accorder superbement avec des choses un peu étonnantes. Sortir de la crêpe à laquelle on pense souvent pour aller plutôt sur poisson, fruits de mer, viande et sauce, etc.
Encore un peu de cidre.
Ah bah je me demande si ça serait bien prudent.
Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieu de savoir la mer.
Ah oui, mais ça me...
Les bulles.
Oui.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ça mousse, ça bulle, ça pétille aujourd'hui dans le studio 521 de la Maison de la Radio. Alors on va trinquer évidemment à tous les papas, car c'est la fête des pères aujourd'hui. On va célébrer aussi un peu en avance le solstice d'été, la fête de la musique qui tombe demain sur nos calendriers. Mais on va surtout fêter une boisson en pleine effervescence, le cidre. Oui, car le cidre n'est plus seulement cette boisson familiale qu'on débouche à la chandeleur, qu'on boit à la bolée dans la crêperie du coin, ou avec des tripes, comme Jean Gabin dans quel film ?
Le tatoué.
Ouh, bravo, bravo.
Buzzer, si on...
Blind test, Dominique Hutin, vous l'avez entendu. Le cidre devient aussi une boisson d'auteur, une boisson d'humeur, un pétillant naturel à la fois enraciné dans le terroir et très libre dans son imaginaire. Pour évoquer cette métamorphose, on est ravis d'accueillir l'un des talents de cette nouvelle génération cidre. Isabelle Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête avec votre compagnon Marc Frocrin de la ferme cidricole des Bouteilles à la Mer. Nos auditeurs apprécieront le jeu de mots parce que amer c'est en un seul mot, amer amertume. Hein.
C'est ça.
Situé en Bretagne, dans le Finistère, où c'est exactement ?
À Cloire-Carnoët, en pays de Quimperlé.
C'est ça, je n'osais pas prononcer le nom de la commune. Ouais, Cloire-Carnoët, dans le pays de Quimperlé, absolument. Et puis une émission cidre serait impossible sans celui qu'on a entendu, c'est Dominique Hutin. Bonjour.
Bonjour.
Notre chroniqueur vin est aussi un grand spécialiste, allez on va dire le grand spécialiste français du cidre. Et je n'exagère pas, on va explorer avec vous, cher Dominique, la nouvelle scène cidre. Mmh. On va déboucher ensemble quelques cuvées parmi les 120 que vous avez dégustés pour nous. J'invite nos auditeurs à aller consulter sur notre page internet votre carnet de dégustation avec des bouteilles à partir de quel prix ?
3,75€.
Vous n'avez pas trop mal à la tête, ça va ?
Non, j'ai bu tout cette nuit, tout va bien.
Quelle abnégation.
Ça s'appelle la journée continue.
Autour de la table dont on va déguster, nous sommes ravis d'accueillir notre chef chroniqueuse, Manon Fleury, bonjour.
Bonjour.
Vous avez joué le jeu du cidre dans la casserole ?
Oui, aujourd'hui on va cuisiner les fonds de bouteille.
Ouais, génial, ça nous plaît à travers des stratégies tout à fait épatantes. Et puis notre ami régulier au micro dont on va déguster, c'est Mathieu Conquet, bonjour.
Bonjour François.
Ça va, Mathieu ?
Bonjour à tous, oui.
Alors,
ah bah moi je suis heureux, je suis comme un enfant. J'ai rencontré une de mes idoles, donc je suis ravi.
Ah, on peut pas en savoir plus, hein.
Mais si je vais vous en dire plus, c'est Laurent Garnier, le DJ, le grand DJ, qui lui passe vraiment de la platine au petit plat. Il nous parlera de sa vie en cuisine et je lui fais d'écouter un cidre à l'aveugle, vous verrez, c'est bien punk.
Et c'est ce qu'on va voir avec vous. Et puis un mot évidemment de la fête de la musique et des festivités
bien
prévues
sûr.
Sur nos ondes à partir demain, puisque c'est le 21 juin. Demain, si vous avez des questions ou des remarques, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Toutes nos infos, le carnet de dégustation de l'ami Hutin, des recettes, le podcast de nos émissions, le podcast de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Juste avant de faire mousser le cidre, je vous propose un petit détour par l'île d'Oléron. J'y étais cette semaine et je vous rapporte une super petite adresse.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Alors moi c'est Patrick Dauduy, ma femme est Cécile, je suis restaurateur sur Oléron, la Menounière, puis là depuis l'année dernière on a décidé d'ouvrir un petit food truck.
Et là vous êtes à bord de votre camion gourmet, c'est un endroit de rêve, on est à côté de la mer, il y a quelques tables dressées.
En plus on a l'aire de loisirs qui est gérée par la commune, où il y a des tables de pique-nique, c'est ce qui nous a un petit peu incité à venir ici. Il y a des toilettes, il y a un parking, c'est quand même déjà quelque chose de confortable pour y travailler. Et c'est à 50 mètres de mon restaurant. J'ai accès à ma cuisine professionnelle, j'ai accès à mes chambres froides, j'ai accès à beaucoup de choses qui me sont un peu limitées dans ce genre de food truck.
Le food truck s'appelle Gaïa.
Oui, Gaïa, un peu pour la déesse de la terre, un peu pour le respect de ses produits qu'elle nous donne.
100% maison avec des produits oléronais.
Ah oui, à fond. Moi, j'ai le port de la Cotinière à 3 km, donc il n'est pas question que j'aille acheter du poisson ailleurs. J'ai mon maraîchage qui est à moins de 5 km autour du restaurant. Du bio, Samuel Parent qui fait que du bio, j'ai le vin bio aussi de chez Fab qui est à 2 km aussi, donc pourquoi aller plus loin ?
Il y a une carte courte ?
qui a juste un plat du jour, qui change tous les jours. Bon, en ce moment, on travaille le maigre, parce que c'est la saison. Après, on travaille les pokéballs. Alors, un coup thon, un coup maigre, un coup bœuf. Voilà, on fait une rillette de maquereau fumé aussi, en tapas. On fait de l'houmous aussi en tapas, avec des pois chiches d'Oléron. Samuel qui fait ça, les jardins de la Josière aussi qui en travaillent.
Ah ouais?
Ouais, on commence à travailler de la farine aussi, qui va se faire bientôt.
Et aussi des boissons fermentées maison.
Voilà, le tepache, donc à base d'ananas, qui est d'origine mexicaine plutôt. Et puis le ginger ale, dont je ne connais pas l'origine, mais qui est à base de gingembre. Je pense que c'était un peu comme le Canada Dry au départ. Il n'est pas industriel, celui-là, il pétille vraiment.
Et en dessert, il y a même des glaces artisanales du coin.
Ouais, à 2 km, on a les glaces Clément qui sont là depuis 30 ans. Et donc, je travaille avec eux, évidemment. Je ne fais pas mes glaces, par contre, ça, c'est sûr. On est riche sur Oléron de nos produits. On a ce qu'il faut pour tenir une carte.
Et là, qu'est-ce que vous me faites goûter?
Alors là, j'ai justement, comme c'est les gros maigres, je garde des grosses têtes. Donc, je les fais bouillir. Je récupère, je gratte, je récupère ma chair et après je fais comme une remoulade avec. Et dessous, j'y mets ma choucroute fermentée, mon chou rouge, avec des figues séchées dedans. Puis là, j'y mets des tomates, j'y mets un peu de citron vert, un petit peu de ciboulette. Et dessus, j'y rajoute des carottes fermentées.
Qu'est-ce que c'est bon. Et le food truck va être ouvert pendant toute la saison estivale?
Oui, on est ouvert depuis le week-end de l'Ascension et on va ouvrir jusqu'à fin septembre. À peu près de 9h le matin jusqu'au coucher du soleil, puisqu'on n'a pas mis de lumière. C'est le soleil qui nous dit quand arrêter, du coup. Non, ce qui me fait le plus plaisir avec ce food truck, c'est que j'arrive à travailler avec mes gens du village, que je croise, qui me disent bonjour, mais que je ne vois jamais dans mon restaurant, quoi. Donc ça, c'est vraiment positif pour moi.
Bon vent à Gaïa.
Merci.
Gaïa, le nouveau food truck. Camion gourmet, s'il vous plaît, en bon français. Le camion gourmet de Patrick et Cécile Dodu, près de la plage de la Ménounière. On est à côté de leur ancien restaurant Saveur des Îles, sur la commune de Saint-Pierre. Si vous avez la chance d'aller faire un tour en vacances à Oléron, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 100% local, biologique, inspiré, à prix accessible. Gaïa, voilà. À la réalisation dont va déguster Laurent Thomas, c'est Stéphane Ronxin qui est en direct derrière la console aujourd'hui. On est ravis de le retrouver, l'ami Ronxin, avec Pierre Faucillon à la technique, préparation Nadia Chougui, programmation musicale Djoubaka. On a Mathieu Conquet sous la main, on en profite. Qu'est-ce qu'on écoute, Mathieu?
Ah bah Djoubaka, il a fait un très bon choix, il vous a proposé Amethyst Kia. Déjà, c'est complètement dans l'actualité puisque l'album vient de sortir, là, il y a 2 jours, et c'est une musicienne qui vient, elle, du Tennessee. Alors, elle a enregistré à Nashville, mais elle est plutôt du côté des montagnes, des Appalaches. Mm-hmm. Elle a la petite trentaine, elle a une voix très singulière, vous allez l'entendre. Elle a fait au départ des études sur la musique country et elle faisait partie d'un quartet assez exceptionnel en Native Daughters avec quatre musiciennes qui faisaient que du banjo avec Leila Makkala, Rhiannon Giddens et des musiciennes que moi j'aime beaucoup.
Vous avez reconnu Mathieu Conquet qui a l'habitude de parler musique sur les ondes de France Inter. Merci Mathieu, vous allez voir, en tout cas ça va vous réveiller. Et dans un instant enfin, le nouveau baptême du cidre sur France Inter. on a la pêche pour toute la journée. Ou plutôt la pomme.
Ouais, améthyste. C'est son vrai prénom, hein. C'est la couleur violette, mais là, elle parlait plutôt de la couleur noire.
Améthyste, ouais, c'est ça. Kia. Non, non, vraiment très bien. Pour explorer la nouvelle scène cidre, nous sommes en compagnie d'Isabelle Richard. Ah,
voilà. Bah, y a un message.
Décidément, y a un message.
C'est un appôt.
Cidricultrice qui nous vient de Bretagne. On est dans le pays de Quimperlé, dans le Finistère. Mais nous avons aussi de l'autre côté du plateau Dominique Hutin qui nous vient, alors, de Normandie, du 50, au cas où on ne le saurait pas, département de la Manche, dans le Cotentin. Loin de moi l'idée de refaire le match Bretagne-Normandie, mais évacuons quand même une première question qui agite beaucoup nos auditeurs sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis obligé de vous la poser. Ils sortent carrément les drapeaux.
Est-ce que le Mont-Saint-Michel est vraiment normand ?
Alors voilà, ça c'est une question qui revient effectivement assez souvent, mais si on la ramène à notre débat du jour, bah la question c'est, est-ce que le cidre est normand ou breton ? Isabelle Richard, vous avez le droit de me répondre, cette guéguerre ne m'intéresse pas. Ah non, vous montrez carrément...
Ouais, c'est Dominique déjà.
Ok.
La peur est dans le camp breton. pour le dire sérieusement, en règle générale, je ne réponds plus à cette question-là. Je trouve qu'elle est épuisée.
Là, vous allez être obligé.
Non, sauf que, un, vous m'êtes sympathique, et deux, il faut quand même que je justifie un peu mon salaire. Donc, je vais faire un tout petit effort, je vais lâcher du lest. Il y a même un outsider avec le Pays Basque, qui est un
Bien
des
sûr.
Épicentres.
Et oui,
voilà, Mathieu qui connaît ses classiques. Ah. Et comme moi, je suis un petit peu normand, donc évidemment, je suis un peu suspect de ne pas être entièrement objectif. Donc, je suis appuyé sur le travail d'un historien. Et on s'aperçoit, en scrutant ce travail de recherche très appliqué, que finalement, ça invalide beaucoup de légendes qui n'ont jamais été foncièrement vérifiées, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été colportées. La première mention écrite du cidre, c'est en Normandie, c'est en 1082. Ça fait un millénaire. Un millénaire. On a des mentions écrites, j'insiste bien, hein, c'est important cette dimension de l'écrit, au XIIe siècle au Pays Basque. Mais, alors oui, on a retrouvé au XVe siècle, au XVIe siècle, pardon, des poniers basques greffés en Normandie. Mais surtout, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en Bretagne, en Normandie, au Pays Basque et partout en Europe, on avait des pommiers sauvages. Ça veut dire que le cidre est né un peu partout en même temps dans toute cette région d'Europe. Par contre, on a une certitude, grâce à cette mention de 1082 en Normandie, le cidre est le premier pétillant naturel de France. Et ça, ça parlera aux amateurs, notamment aux amateurs de vin nature. Et après, poser cette question de l'identité, est-ce qu'il est meilleur breton, est-ce qu'il est meilleur normand, etc., ça pose d'autres choses. Il faut d'abord parler d'identité de terroir. Si on prend la Normandie, quel lien y a-t-il entre un Cotentin, acide amer, entre un Pays d'Auge qui est très onctueux et un Perche qui est super équilibré? Aucun. Si on va en Bretagne, quel lien entre Fouesnant, qui est quand même très structuré, ça Isabelle est bien placée pour le dire, les cidres blonds de Rennes qui sont tout délicats, et un Guilvic, qui est un monovariétal du Morbihan? Aucun. Donc toutes ces querelles, il faut les évacuer, c'est fini, c'est terminé, on ne veut plus en entendre parler. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la communauté d'esprit qui anime les tissus des producteurs. Et là, bretons et normands se reconnaissent,
absolument,
pourvu qu'ils soient animés par les mêmes convictions.
Et vous évoquiez, Dominique, les beaux cidres du Pays Basque. Nous avions consacré une émission au cidre en 2019 avec un artisan basque très engagé du domaine Bordato dans les Pyrénées-Atlantiques, Bing Shengshou. À Foule, vous vous souvenez ?
Oui, bien, j'attendais la prononciation.
Non,
magnifique cidrier
de...
qui est d'abord né vigneron. Et ça aussi, c'est un marqueur. Les gens du vin s'intéressent au cidre.
On a le sentiment, Isabelle Richard, que les producteurs de cidre aujourd'hui sont un peu débarrassés de ces considérations de terroir, de chapelle, de clocher, etc. Et effectivement, comme disait Dominique, il y a comme une communauté d'esprit, indépendamment de leurs origines, qui les rassemble tous. Pourtant, vous revendiquez aussi une démarche de terroir. Vous ne jetez pas les traditions à la poubelle. La preuve, c'est que le premier cidre que vous nous faites déguster s'inscrit plutôt dans la tradition.
Oui, tout à fait. On est sur un cidre brut qui appartient à la famille des cidres de Cornouailles. Hein. Il y avait quatre crus historiquement en Cornouailles. Et donc là, on est sur celui qui est situé à proximité de la vallée de la Laïta, ou Avenlaïta, pays de Quimperlé. Plus précisément, donc là, c'est un parcellaire de Cloire-Carnouët.
Alors,
donc
parcellaire, vous nous reprécisez.
Un verger. Les pommes viennent d'un seul verger sur une parcelle.
Parce que là, vous parlez
côtière.
Comme une vigneronne.
Ouais. Excusez-moi.
Non, mais justement, c'est intéressant.
Une seule parcelle côtière, plutôt micaschiste, sableau-argileuse. Les anciens disent qu'il y a des effets terroirs aussi, ils ne le disent pas comme ça. Mais clairement, il y a une rondeur, il y a un climat iodé, il y a un ensoleillement, n'en déplaise à Dominique, qui est favorable à ce type de choses. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est avec ça qu'on a commencé, c'est très important pour nous.
Et qu'est-ce que c'est bon ?
Après, je le relirai, ça va faire plaisir à Dominique, mais je vais dans son sens, je le relirai volontiers en termes de famille, de cœur, à des choses qu'on trouve en Pays d'Auge ou en Cotentin. Parce que nous, on a un kiff pour les variétés à tanin,
oui.
Spécifiquement à cidre. Certaines, on les recrache, hein, si on essaye de les manger.
Elles sont carrément...
Elles ont des polyphénols, c'est la même chose que dans la peau des raisins.
Elles accrochent la bouche, elles sont astringentes quand
et
vous parlez de pommes taniques.
Et c'est ça qui fait qu'elles ont une âme en fermentation. Et à la distillation aussi. Voilà, donc nos familles de cœur, elles dépassent largement le Couesnon. Effectivement, on aime aussi beaucoup ce qui se passe en Pays Basque. Mmh. Et effectivement, il faut arriver à... Donc la diversité en fait, des terroirs, elle est chouette. Elle ne s'oppose pas.
Un petit commentaire de dégustation. Comment vous l'appelez? Comment elle est baptisée cette, on va l'appeler la cuvée... Oh, je ne sais pas s'il faut dire cuvée tradition, mais une cuvée plutôt, entre guillemets, classique, même si elle est à la fois très flatteuse et très exigeante en termes de goût.
Rien n'est jamais classique, mais effectivement, on l'appelle Mondou Amer, et on appelle ça Brut Trad dans notre jargon, mais parce que voilà, on est sur un site cornoyais, typique, sans chichi, qui rassemble les gens.
Appellation
les gens
village.
Les gens du coin, voilà. Mm-hmm. On a voulu marquer le coup avec une appellation village, puisque ça venait d'un seul, un seul verger, plutôt côtier.
Mm. Qu'est-ce que vous en pensez, Manon Fleury?
Moi, j'aime beaucoup cette couleur déjà très ambrée.
Oui, on n'a pas parlé de la couleur.
Il y a un côté assez caramel, finalement, même s'il y a très peu de sucre. Hein, c'est quand même assez sec.
Ouais.
Mais j'aime bien ce côté un peu, ouais. Et on parlait avant l'émission avec Isabelle de l'accord, des accords qu'on peut faire avec le cidre. Et moi, je trouve qu'il y a toujours cet accord, et on est en train de déguster un petit cracker au sarrasin. Et il y a ce côté torréfié qui se pose merveilleusement bien sur le cidre. Et l'accord sarrasin, c'est un accord traditionnel. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que ça se pose justement sur ce côté ambré, caramélisé qu'on retrouve dans le sarrasin.
Mathieu Conquet, un petit commentaire sur ce cracker.
C'est excellent, le sarrasin, ça va vraiment hyper bien. Non, je vous faisais signe parce qu'il y a des auditeurs qui réagissent, il y en a qui bondissent. Alors Sylvie nous écrit pour dire que personnellement, le cidre est idéal pour cuisiner coquillages, toutes les viandes. Elle nous propose plusieurs idées de recettes. Alors, écoutez, ça fait saliver tout ça. Un collier d'agneau au cidre et aux pommes avec un soupçon de cannelle.
Mm-hmm.
Tout va bien. Risotto aux fruits de mer et au cidre. Le cidre servant à cuire les coquillages.
Très bien.
Et puis, le cidre corsé de cuisine ou en gelée pour déglacer une viande. Et par exemple, à table aujourd'hui, ce sera filet mignon de porc en gelée de cidre et champignons frais.
Mais on valide.
Parfait.
Et on s'invite à la
merci
table
Sylvie.
De...
Comment ça...
Oui, merci Sylvie.
Merci Sylvie.
On verra qu'il y aura d'autres stratégies tout à l'heure avec Manon Fleury. Un petit mot sur ces crackers qui sont quand même extraordinaires parce que vous avez installé votre activité dans une espèce d'écosystème où il y a des restaurateurs.
Ouais, c'est chouette. Ils ont tous contribué là pour vous faire goûter des choses. Donc là, on a une farine d'un paysan meunier du Finistère, du côté de Douarnenez, le moulin de Saintet, à la Meule de Pierre. Et on a une variété ancienne. Et c'est travaillé par Olivier Legarec de la crêperie Tibilic à Quimperlé, que j'adore, avec un tour de main incroyable, une fermentation à l'air et à la main de sa pâte. Donc pour votre plus grand bonheur.
C'est extraordinaire. Donc là, on est plutôt dans la tradition, mais on voit, et on en arrive au cœur de notre sujet, la scène cidre est en pleine effervescence, Dominique Hutin. Ces acteurs changent. Vous en êtes illustration, parce que vous êtes installé avec votre compagnon Marc depuis combien d'années?
Fin 2014.
Fin 2014, bon, reconversion professionnelle?
Entre autres choses, mais l'important c'est que le job soit fait.
Vous n'aimez pas parler de votre reconversion professionnelle?
Bah, après, c'est ce qu'on est, mais ensuite, il faut que le boulot soit fait. Et voilà, il faut être jugé sur ce qu'on fait.
Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que cette filière attire de nouveaux talents. Oui, et ça, c'est intéressant. Faisant évoluer, par conséquent, les cuvées, le public du cidre change aussi, Dominique.
Oui, absolument. Moi, je trouve Isabelle un peu timide. Je trouve que cette possibilité de reconversion, c'est un des marqueurs, justement. Pendant longtemps, on a eu une filière qui a été d'abord enfermée dans un trop générique cidre au singulier. Est-ce que vous allez au restaurant en disant « je veux du vin » ? Non. Vous demandez du Sancerre, vous demandez du Pamerol, en sachant tout à fait les notions, les sensibilités, les nuances que tous ces mots emmènent dans leur sillage. Isabelle l'a très bien dit tout à l'heure, la notion de terroir, de découpage, etc., qui était alors peut-être scandée de manière un petit peu empirique par les anciens, mais il y a un vrai savoir-faire, une vraie connaissance de ce terroir-là. Et puis, effectivement, pour vous répondre entièrement et complètement, oui, il y a des nouveaux publics. Et la promesse du renouveau qu'on est en train de former avec cette émission, elle est portée par des renouvellements de génération. Isabelle, on a parlé de reconversion, mais quand on évoque la question du changement de génération, ça vaut pour deux choses. Ça vaut pour les producteurs. Et ça vaut aussi pour les consommateurs. Consommateurs qui vont former une demande totalement différente. Si on s'attache, au volet producteur, on a quitté les rives de l'empirisme. Parfois c'était bon, d'autres fois c'était on va dire en termes diplomatiques, c'était un peu moins réussi. Voilà. Et pourquoi on a quitté les rives de l'empirisme ? D'abord parce que les producteurs, un, se sont spécialisés en atelier cidricole, là où c'était le règne, bah voilà, de la polyculture, on fait un petit peu de cidre, tonton Marcel peut m'avoir...
On ne peut pas dire de l'amateurisme ?
Oui, et puis bon, on pouvait avoir des bouteilles sans étiquette mais à moins d'un euro, donc évidemment, on avait une exigence qui était assez mesurée. On a des œnologues qui sont arrivés dans les chambres d'agriculture. Donc aujourd'hui, on sait que le cidre, ça s'apprend. Et quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à entendre, c'est qu'il est éminemment plus compliqué de faire du cidre que du vin. Ça n'est pas parce que l'image sociale est encore un peu timide et que les prix restent d'ordre cidricole, mais c'est extrêmement compliqué à manipuler.
Isabelle Richard, justement, sur la question de la formation, comment vous vous êtes formée à ce métier de cidricultrice, vous, avec votre compagnon Marc ?
Alors Marc, lui, il a fait la seule école qui existe pour l'instant sur le sujet, en arbo et en transfo, qui ça va faire plaisir à Dominique, qui est en Normandie, donc en Pays d'Auge.
On a failli attendre.
Voilà. Et moi, je me suis formée plutôt sur le tas, parce qu'on était en production de 40 000 bouteilles depuis début 2015, fin 2014, et qu'on a vachement de mal maintenant à décélérer pour se former. Il faudrait, hein, sur l'eau de vie, sur le vinaigre, sur plein de choses. On adorerait.
Beaucoup de produits compagnons, ça c'est voilà. Intéressant.
Beaucoup de producteurs, de sommeliers, de restaurateurs, de cavistes, parce que désormais, la boisson cidre intéresse tout le monde, y compris les sommeliers des grands restaurants, c'est ça qui est intéressant. Tout ce beau monde pointe le fait que ce qui fait le succès et le capital sympathie du cidre nouvelle génération, c'est que c'est une boisson naturelle, mais qui est à la fois moderne, avec même de temps en temps, on va le voir, de vrais codes urbains, tout en conservant ses racines paysannes. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est dans ce paradoxe que réside la cote de sympathie du cidre ?
Je sais pas si c'est la cote de sympathie qui... C'est difficile pour nous d'expliquer ça, on n'est pas très objectif parce qu'on est amoureux de ce qu'on fait et notre terroir. Mais effectivement, nous, notre inspiration, elle est née là. Elle est née dans ce télescopage entre ce que nous ont transmis des anciens, avec quand même un patrimoine en perdition et en danger. Hein, donc il y a quand même encore beaucoup de sujets de sauvegarde. Il y a une perte de savoir-faire importante et des inspirations plus libres qui nous viennent métisser, décloisonner, qui nous viennent du monde du vin nature ou biodynamique.
Ah ouais.
De la bière craft. Et
là, vous
tout
évoquez
ça,
la bière artisanale qui a été aussi une source d'inspiration.
Ouais, en partie. Moi, j'aime bien quand ils vont lorgner du côté des fermentations spontanées aussi. Enfin, voilà. Et tout ça, ça fait, on brasse tout ça ensemble et on en sort à la fois des cidres trad, mais magnifiques, en essayant de retrouver, loin de l'œnologie, des fois, essayer de retrouver aussi certaines caractéristiques des cidres à l'ancienne qui sont parfois intéressantes. Et puis aussi d'oser des cidres plus punk, quoi. On est nombreux à essayer de transgresser aussi. Mais transgresser parce que voilà, parce qu'on aime la tradition, mais qu'on a envie aussi des fois de décoincer le truc et d'aller plus loin.
Et là, ça se traduit effectivement par des jus nouveaux. Ça se traduit aussi en termes graphiques, dans le choix lexical des étiquettes. Dominique, pour rigoler, m'a envoyé, je ne sais pas si c'était pendant votre dégustation, moi une étiquette créative. C'était mouette. Mouette et chardon.
Oui, c'est très très bon. Très, très bon.
Mouette et chardon pour un vin qui vient. Pardon.
C'est un cidre de Bretagne, mais je trouve que justement, lorsqu'on commence à créer du décalage, c'est un signe de maturité d'un marché. On a évoqué de liberté, voilà. Et alors, faut bien agencer deux trucs. On parlait du capital sympathie, donc moi je veux bien souscrire à ça. Mais ça a été justement l'enfermement du cidre. Il est bien sympathique et on avait un geste de consommation obligé au moment de la chandeleur, la galette d'Herouet, patati et patata. Donc voilà, on achetait une bouteille de cidre par an. C'est sympathique, mais le reste de l'année, on n'y pense pas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est la créativité. Et la créativité, c'est bien le dernier truc qu'on accordait au cidre. Vous voulez des cidres vinifiés en amphore ? On en a. Vous voulez des cidres partagés avec de la prune, de la poire, du coin en co-fermentation, on en a. Vous voulez des extra bruts, on en a. Vous voulez des vieux millésimes, on en a. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Le 109, il est là.
Et d'ailleurs, on la voit, hein, la variété des étiquettes, ouais. La créativité autour des noms, des vocables. C'est vraiment, il y a comme une nouvelle appétit de cidre qui se profile notamment et avec les cuvées que vous nous avez apportées.
Et les producteurs arrêtent de nourrir des complexes.
C'est ça.
Acceptent de se raconter. Vous l'avez dit, vous avez convoqué la question du champ lexical qui avant se réduisait à « oh ben voilà mon brut ». C'est bon, je vais vous faire goûter mon doux.
Oui.
Aujourd'hui, on a des contre-étiquettes qui sont aussi bavardes que les étiquettes de vin.
Et puis, on avait souvent sur les étiquettes aussi la jolie longère normande
obligé.
Avec les pommiers derrière,
obligé.
Etc. Et tout cela est en train de changer à grands pas. On évoquait un cidre punk. Eh bien, on en vient à la musique avec notre ami Mathieu Conquet. J'ai comme gastronomie, j'ai comme gyoza J'ai comme Garnier, Laurent de son prénom, mais avant d'aller voir Laurent Garnier, vous êtes allé faire un petit tour dans une adresse fameuse de Paris. On en sait plus dans un instant.
Encore un petit.
Ah ben je me demande si ça serait bien prudent.
Des bulles,
oui.
On va déguster.
Ah ben oui, ça donne des bulles.
Alors, aiguillé par Dominique Hutin, je suis allé mercredi, à quelques heures avant le match de l'équipe de France de foot.
Elle a aiguillé tout le monde dans cette émission aujourd'hui, c'est la sienne, d'émission.
Voilà. Je suis passé à la cidrerie, quai de Valmy, à Paris. Alors, Benoît Marino, s'il est de Quimper, il m'a fait goûter un cidre clair comme un vin blanc, hyper frais, désaltérant, avec, il m'a dit, tu vas voir, il y a une note de whisky en fin de bouche. Je me suis dit, oh, on va voir. Et, non, vraiment, quoi. Et c'était super bon. Aucun sucre ajouté, pétillant naturel. C'était excellent. Et il m'a confié une bouteille à l'attention de Laurent Garnier avant de lui faire déguster à l'aveugle. Alors, je rappelle quand même qui est Laurent Garnier.
Ah.
DJ, producteur, pilier de la musique techno en France. Il s'est fait connaître dans le monde entier en commençant à la Hacienda Manchester à la fin des années 80, à l'époque sous le nom de DJ Pedro. Et puis, Laurent Garnier a aussi été à la tête d'un label indépendant, F Communication, qui a été très important dans ce qu'on a baptisé la French Touch. Laurent Garnier, il a plusieurs casquettes et lui, il passe vraiment des platines au petit plat. Il fait pas semblant. Il s'est installé dans le Luberon, près de Lourmarin, où il anime notamment le Yé Festival. Il est aussi habitué des cuisines d'un restaurant à qui s'appelle les Valseuses, où il fait notamment des gyoza. Gyoza en japonais, c'est la pâte farcie, hein, c'est le ravioli qu'on fait griller. En Chine, on dit jiaozi ou guotier pour désigner ces raviolis grillés qui existent depuis des siècles maintenant. Alors, vous savez que Laurent Garnier, il aime vraiment la cuisine, ça s'entend dans sa musique, puisqu'il y a un de ses morceaux qui s'appelle Gnamakuji, ça c'est le jus de gingembre. Et un de ses classiques, c'est Crispy Bacon. Et il m'a dit, mais oui, mais j'aurais dû l'appeler Sizzling Bacon, parce que quand il écoutait le son de la basse, il entendait du bacon grésillé dans la poêle, et par manque de vocabulaire anglais, il a dit crispy, qui est le... En fait, crispy, c'est le résultat de la cuisson, c'est ce qui est croustillant, mais voilà. Si vous recroisez Laurent Garnier, vous lui parlez de Sizzling Bacon. Je pense que ça devrait l'amuser. Laurent Garnier, qui est donc plutôt en cuisine qu'aux platines ces derniers mois, et il va nous raconter pourquoi.
Je travaille toujours les week-ends dans un restaurant. J'ai pas repris mon métier normal, qui est DJ normalement. Hein. Donc ouais, ça fait un an que je bosse dans un... Alors c'était pas voué d'être un restaurant. Au départ, c'est des potes à moi qui ont ouvert un lieu. Ils étaient plus dans l'idée de faire un wine bar avec des bons pinards et tout ça, avec des planchas et des petites choses. Et très rapidement, ils ont rencontré deux chefs japonaises. Et comme il n'y avait pas du tout ce genre d'option où on habite dans le sud de la France, enfin on habite dans des petits villages, il y a beaucoup d'options... pizza ou bouffe normale française, tout ce que tu trouves dans tous les bars, mais c'est vrai que des bons gyoza, des bons konomiyake, des bonnes choses comme ça, il n'y a pas. Et donc ils ont engagé ces deux nanas qui font une semaine, et j'avais envie d'apprendre à faire des gyoza parce que j'aime bien ça, puis j'aime beaucoup aller manger au Japon. Comme là je voyageais plus, ça me manquait, j'ai dit écoute Pierrot, est-ce que ça t'embêterait pas qu'elle me donne un petit cours sur des gyoza, sur des petites choses japonaises, j'aimerais bien pouvoir faire à la maison. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé tous les samedis en cuisine avec les filles. Donc c'est super, je les seconde, je coupe beaucoup de carottes, beaucoup de laitue, tout ça, et surtout j'apprends, je note. Donc j'ai appris des choses cool.
Mais au départ, vous aviez une formation à l'école hôtelière ?
Écoute, c'est mon vrai métier, en fait. En fait, j'ai fait un BEP CAP à l'école hôtelière à Paris. Après, j'ai fait 7 ans de restauration, donc j'ai travaillé à l'ambassade de France en tant que valet de pied pendant un an et demi à Londres. Après, j'ai travaillé dans des restaurants en Angleterre, à Manchester. Parce qu'en fait, DJ, c'est un rêve de gosse. Donc j'arrosais tout le monde de cassettes, dont mes collègues en cuisine ou en salle et tout ça. Je donnais les cassettes à tout le monde. Puis dès qu'il y avait une fête, j'emmenais mes disques. Hein. Quand mon métier DJ a commencé à décoller, j'ai dit bon, la restauration, c'est bon. Moi, j'aime plus la musique, même si j'aime toujours autant manger. J'aime plus la musique et donc je suis parti dans la musique.
Quel rapport vous faites entre être aux platines et être au four, être en cuisine ?
Ou même quand j'étais en salle, c'est le partage. C'est le partage et le plaisir. Parce que des fois, je pense que la musique, comme la bouffe, en fait, tu t'en rappelles toute ta vie. Moi, j'ai des expériences. Je me rappelle une fois, j'avais été dans un restaurant en Bretagne. On m'avait dit, va là-bas, ça s'appelle l'Auberge Bretonne. Je sais que le nom a l'air très désuet, mais tu vois, tu vas super bien manger. Le dîner était incroyable. On était tous les deux avec ma femme. Et en dessert, il y avait plusieurs desserts. Et ils avaient emmené une petite cuillère avec une espèce de mousse rose. C'était une mousse à la rose. J'avais jamais goûté ça de ma vie et j'en ai pleuré. Et ça, c'était il y a plus de 20 ans et je m'en rappelle encore. Comme je peux me rappeler d'un disque que tel ou tel DJ a joué tel ou tel soir parce que ça a retourné la salle. Et c'est vrai qu'il y a des plats, il y a certains restaurants, il y a certains endroits avec le lieu, tout ce qui va avec. Il y a des choses qui te retournent quand tu manges. Donc on fait le même métier.
Je vous propose une dégustation à l'aveugle, Laurent Garnier.
Merde, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est très acide, ça pétille. Bah c'est un vin qui est pas fini encore. Il est pas au bout de sa maturité, le gars là. Mais c'est ce qu'on appelle un vin orange, non ? Ou c'est un jus de pomme ?
Vous y êtes, Laurent Garnier. C'est un cidre. C'est un cidre qui vient de Suède. C'est une cuvée qui s'appelle Plumenian Rhapsody. Ça vient d'un producteur qui s'appelle Frukt Stereo. C'est des cidriers fous. Ils sont dans la région de Malmö, à peu près. Hein. Ouais, c'est à l'est de Copenhague.
Qui font le vin orange ou des choses comme ça. Tu vois, des trucs qui restent pétillants ou t'arrives pas à bien savoir si t'es entre le cidre et le pinard.
C'est un cidre qui est en co-fermentation. C'est-à-dire qu'il y a pomme, raisin, prune et poire. Vous les voyez d'ailleurs. C'est comme un groupe de rock sur l'étiquette.
Alors on dirait Freddie Mercury devant. Je pense qu'ils sont vachement inspirés de Queen. Je vois pas qui est la grosse pomme derrière, mais il doit y avoir une pomme et une prune. Et en tout cas, il y en a un qui a une grosse moustache à la Freddie Mercury. En tout cas, c'est bien, c'est bon.
Et qu'est-ce qu'on mettrait comme musique avec ça ? Ça pourrait aller avec Soul ?
Ah, mais carrément, vous voyez, Soul va avec tout. Vous savez, Soul, il est multicarte. De toute façon, Soul, il est dans les années 70-80, donc il n'y avait pas toutes ces choses expérimentales qu'on a la chance de pouvoir boire aujourd'hui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les vignerons et puis les gens qui font ce genre de boisson aujourd'hui sont hyper engagés.
Merci Laurent Garnier.
Et merci à toi. écoutons Soul.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. Il va au lycée, mais il déteste ça.
Suite de l'histoire Soul, c'est le premier extrait de cet album de Laurent Garnier avec Lili Mignanas, un disque de rock, de trance. C'est un road movie, ça s'appelle Des Pellicules. L'album sortira le 10 septembre.
Et c'est vraiment très chouette.
Ah, c'est super. Et on va les réentendre, je pense, sur Inter. Et puis, la musique va continuer demain partout, hein, l'année prochaine sur Inter. À 15h, vous entendrez Eddy de Préto. À 16h, dans Pop Pop Pop, Antoine de Caunes recevra La Femme. Excellent groupe. À 20h, en direct en public de l'Olympia, il y aura London Grammar les Anglais, Clara Luciani pour ce premier concert à l'occasion de la sortie de son album, et puis Feu Chatterton. Alors pour l'Olympia, malheureusement c'est déjà complet, les auditeurs sont inscrits tout de suite, ça a été un raz-de-marée, mais vous pourrez tout suivre en direct demain.
Parfait, et des auditeurs nous demandent les références du cidre un peu zarbi, on va dire, un peu bizarre pour parler verlan, que vous avez fait goûter, Mathieu Conquet, à Laurent Garnier sur recommandation de Dominique Hutin.
Alors, attention, c'est du suédois, Elvira Masson nous écoute.
Oui, c'est sûr.
C'est notre référente suède.
Ouais. Alors c'est Pluménian Rhapsody, celui qui est plutôt rouge, producteur Fruit Stereo, c'est des cidriers un peu fous, on peut trouver ça donc à la cidrerie, c'est au 51 quai de Valmy. Pour donner une idée du prix, sur internet, ce que j'ai trouvé, c'est entre 20 et 34 euros la bouteille.
Ah, quand même.
Mais oui, mais attendez, pour vous donner une idée, à la cidrerie, moi j'aurais demandé le demi, c'est combien, si je viens, j'ai soif, c'est entre 3 et 4 euros le verre, ça va. Il y a des pintes à 11 euros, parce que c'est exceptionnel, c'est des choses plus difficiles à faire et à trouver, mais vraiment, on peut boire pour pas cher, et c'est avec un grand plaisir. Il y avait un autre cidre que vous m'aviez recommandé, qui était fou aussi, là.
Un cidre du Chili. Allez à la cidrerie, et j'ai mis en ligne j'ai perdu mon papier, mais je pense qu'il y a une vingtaine d'adresses à travers toute la France,
oui,
Aix-en-Provence, dans la Drôme, même des cavistes avec 27 références de cidre. Ça, c'est vraiment un marqueur de l'ère nouvelle et contemporaine du cidre.
La question du prix agite nos auditeurs. On va y venir justement dans un instant. On peut pas passer à côté. Mais avant, la réaction qui fait peut-être un peu écho à celle de Laurent Garnier lorsqu'il a goûté votre cidre. La réaction de Samuel, Paris 18e, qui nous écrit sur Facebook ce message qui reflète peut-être l'avis de pas mal de gourmets. Je cite, les vins nature ont souvent le goût de cidre, le cidre a souvent le goût de vin nature, et parfois même le goût de la bière artisanale, ces boissons naturelles se ressemblent toutes, et l'expression du terroir dans tout ça. Voilà. Comment vous réagissez, Isabelle Richard?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de cidres de terroir aujourd'hui, donc c'est pas. Je dirais que là-dessus, au contraire, ça peut être un atout du cidre.
Vous parliez de cuvées parcellaires, donc avec des pommes issues d'un verger précis, ça veut dire que vous faites attention à votre terroir, vous les reflétez.
Que sur des variétés de pays, travailler en levure de terroir, on est de plus en plus nombreux à le faire, pour justement arriver à ce que les crus différencient les uns des autres. Donc non, je crois qu'il faut surtout que le cidre crée sa propre grammaire, ça c'est pas évident, parce que du coup il est encore un peu intimidé par les cousins vin et bière, mais il va falloir y venir, et il y a moyen.
Et par ailleurs, Dominique, est-ce que le cidre ne doit pas aussi son succès justement à la symbolique extrêmement forte et à sa valeur aussi écologique, celle du verger?
Fatalement, on peut même parler parfois d'identité paysagère. Je parle du Cotentin dont je viens. Si vous plantez un hectare de verger, vous devez entretenir 200 mètres linéaires de haies. Et c'est un sens premier dans le département qui a le moins de forêts, mais qui pour autant a le plus d'arbres. Donc il y a un truc quand même à comprendre, ce sont les haies. Et donc ça, c'est une identité paysagère. Et les haies, fatalement, elles sont gages de diversité biologique.
Donc faire du cidre, c'est aussi une façon d'entretenir nos bocages, nos paysages.
Mais bien sûr, ça peut. Et puis là, on a des valeurs qui sont par définition indéracinables. Et puis au-delà de ça, quand même, je crois qu'on a on sait tous écrire par cœur maintenant le mot réchauffement sans faire de faute. Le cœur des villes réclame à ce qu'on replante des arbres qui est un piège à carbone. Donc si vous faites la somme de toutes ces réflexions-là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à mener avec les vergers qui sont, oui, des gages d'avenir. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé la réflexion sur la grammaire du cidre, et pour répondre à notre auditeur que vous avez bien voulu citer juste avant, oui. Les trois univers, bière, cidre, vin, s'inspirent mutuellement aujourd'hui. Beaucoup de vignerons font des cidres. Vous avez cité le domaine Bordato, qui était notre invité en 2019. Il est né d'abord vigneron. Et là, il y a des sources d'inspiration mutuelle qui sont tout à fait intéressantes. Et moi, dans le carnet de verger, pour le coup, que j'ai mis en ligne avec ces 100 cidres, je n'ai mis quasiment que des nouveaux domaines. Vous ne les connaissez pas, ne cherchez pas. Je suis venu avec aujourd'hui. On a des cidres sur l'île de Groix, au large de l'Orient. Et on a aussi un magnifique, la cidrerie de Rayon, en Lorraine. Vous le saviez? Non, personne ne le sait. Prémisse de Cyprien Lireux, magnifique garçon.
Vous attendez quoi là pour en ouvrir une ou deux?
Le signal. Voilà.
Go.
Mais aussi Poim, ça j'ai adoré, à minima, c'est Maxime Rimbert à côté de Rouen. Mais tous ces gens-là, c'est le talent d'aujourd'hui, c'est le talent de demain.
Ça titre entre combien et combien un cidre aujourd'hui dans votre large gamme des cuvées dégustées?
Si vous avez des cidres doux qui sont peut-être les plus faciles d'accès, qui n'ont pas mangé tout leur sucre, donc qui sont tendres, vous allez aller vers 3 degrés. Mais j'ai des cidres qui tendent jusqu'à 10 degrés dans cette sélection, par exemple.
D'accord. Et si le cidre passer aussi à la casserole, ou plus exactement les fonds de bouteille, parce que les bons cidres méritent aussi évidemment d'être bu. C'est la leçon de cuisine signée Manon Fleury.
On va déguster.
Mmh.
sur France Inter.
Cher Manon.
Oui, c'était parfait qu'on parle de la logique du verger juste avant que je présente cette chronique, puisqu'en fait c'est ça qui m'inspire moi aujourd'hui, cette espèce de diversité qu'on trouve dans l'assiette et qu'on retrouve dans le cidre, cette inspiration qu'ont tous les chefs, que devraient avoir tous les chefs je pense aujourd'hui, du terroir. Et en fait j'ai essayé de faire cette chronique en construisant dans une logique de la ferme, c'est-à-dire que moi quand j'imagine une bouteille de cidre, je l'imagine sur la table restée ouverte, une bouteille restée ouverte sur la table de la ferme, et je me suis demandé ce qu'on pourrait faire avec cette bouteille de cidre. Et puis en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle souvent de vin blanc dans la cuisine française. Le cidre est souvent cantonné à des recettes du terroir. On pense au lapin au cidre, évidemment. On pense aux recettes qu'a cité tout à l'heure Mathieu, ces recettes de ragoût. Moi j'ai eu envie d'en faire quelque chose de plus frais, sachant qu'on est au mois de juin, qu'on a envie de se rafraîchir, et voilà, qu'on a envie de quelque chose d'assez léger. Et le cidre, il y a aussi ce côté facile à boire. Moi, je sais que j'en bois assez souvent aussi à l'apéritif. Il y a vraiment ce côté facile. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver des logiques où on serait allé remplacer ce vin blanc qu'on trouve dans le frigo, le fond de bouteille de vin blanc qu'on trouve dans le frigo, par du cidre. Et j'ai essayé donc de reprendre une recette tellement traditionnelle qu'on trouve dans la cuisine française.
Vous allez choquer certains auditeurs, je crois. Attention.
Le beurre blanc que moi j'adore, alors que j'essaie d'éradiquer le beurre de ma cuisine parce que on essaye d'alléger, on essaie d'enlever la matière grasse, mais pitié, n'enlevez pas le beurre blanc.
Et n'enlevez pas le beurre dans le beurre blanc.
Bien sûr.
Par contre, on va voir qu'on peut éventuellement enlever le vin.
On peut éventuellement enlever le vin, et donc je l'ai remplacé par du cidre. En fait, l'idée, c'est donc très simplement de venir ciseler des échalotes. Ciseler, ça veut dire les couper en morceaux très fins, de les faire suer dans le fond d'une casserole avec un tout petit peu, une pointe d'huile pour pas que ça accroche. Une fois que vos échalotes sont un petit peu cuites, vous rajoutez un peu de vinaigre de cidre. Vous faites réduire ce vinaigre de cidre, parce que voilà, on reste dans la logique de ces produits dérivés du cidre. Et puis une fois que le vinaigre du cidre a réduit, vous venez déglacer avec du cidre et vous faites réduire de moitié. On fait réduire de moitié parce qu'en fait, ce que j'ai envie, c'est de garder un petit peu de matière et ce côté un peu doucereux du cidre. Et en fait, on va venir monter cette réduction avec du beurre, en montant très doucement hors du feu. On peut garder le feu très doux si on a peur qu'il y ait un problème de chaleur. Mais l'idée, c'est de monter cette émulsion. Le beurre blanc, c'est une émulsion instable.
Donc c'est voilà, ça.
Ce que je disais tout à l'heure, j'avais peur, chaude, instable. Donc voilà, l'idée, c'est de conserver cette chaleur, on va dire tiède presque.
Sinon, il se passe quoi globalement? Ça tranche.
Donc il y a vraiment le côté. Donc
l'émulsion se casse la figure.
Voilà, l'émulsion se casse la figure. L'eau de côté, la réduction de vinaigre de côté et le beurre de côté qui tranche. Voilà, donc c'est une recette qui normalement s'associe évidemment soit au coquillage, soit au poisson. Moi j'ai eu l'idée parce que j'adore évidemment le végétal, et puis en été on a envie de légumes, etc. Donc là j'ai fait une sorte de salade de haricots avec des pickles de concombre pour ajouter de l'acidité, pour contrebalancer le côté gras du beurre blanc.
Ah oui, alors, cidre. C'est trop bon.
Et donc j'ai associé ça à des légumes. Donc voilà, le beurre blanc, et traditionnellement en Normandie, quand on se dit, on va beurre blanc, on mange avec du poisson. Ben non, le beurre blanc, c'est une sauce à part entière qu'on peut tout à fait agrémenter avec des légumes. Et je trouve que moi, ça enrobe les légumes, cette espèce de salade de haricots verts qui porte sur l'acidité. Et puis, on va terminer avec une autre recette à base d'abricots. Donc, c'est un dessert qui fait penser, évidemment, à la poire pochée au vin.
Oui.
Moi, j'ai un dessert que j'aime bien, mais que je trouve un peu désuet, qui n'est pas forcément toujours facile à manger en dessert. Et je trouve qu'en fait, je suis partie de la couleur du cidre, qui est si belle, et j'ai essayé de l'associer à un fruit. On arrive dans la saison des fruits, merveilleuse saison des fruits d'été, avec l'abricot, ton sur ton, évidemment, Dominique. C'est ce que moi j'adore faire ça en cuisine, composer avec les couleurs, c'est tellement inspirant. Et donc j'ai mondé les abricots, c'est-à-dire que j'ai enlevé la peau comme vous le feriez avec des tomates. J'ai juste piqué la peau, j'ai incisé le noyau, l'abricot, j'ai enlevé le noyau et je l'ai plongé dans l'eau bouillante 30 secondes.
Avant pochage, vous
pelez ? Avant pochage, ouais. Non, j'incise.
Comme
on fait pour une tomate, quand on fait la petite croix, vous savez, derrière
voilà,
la
vous
tomate.
Vous incisez, vous plongez l'abricot
dans l'eau bouillante.
C'est ça.
Et vous le refroidissez.
Une petite onction de vinaigre, non ?
Oui, j'ai mis un tout petit peu de vinaigre de cidre pour balancer le sucre du vinaigre, du cidre, pardon.
Super.
Et donc en fait vous faites ça, vous enlevez la peau et ensuite vous faites un sirop à base de cidre, d'eau et de sucre, vous le faites refroidir parce que le problème c'est que si vous mettez l'abricot une fois pelé dans le sirop chaud, il va changer de couleur, il va devenir un peu marron.
Alors que là il est un très bel orangé couché de soleil.
Exactement, si on le refroidit on peut vraiment immerger l'abricot dedans sans crainte, sans qu'il change de couleur, même si évidemment il y a une durée limitée dans la conservation. Je pense que vous ne pouvez pas le garder plus de 2 jours au réfrigérateur. Mais en tout cas, vous pouvez l'immerger dans ce sirop. Et ça fait, parce que j'appelle moi une nage d'abricot.
C'est super.
Avec un sirop de cidre. Où on va ajouter un petit peu de vinaigre de cidre, un peu de jus de citron. Et ça fait un dessert léger et merveilleux pour
l'été. Une petite amande.
Et il y a, oui, c'est ça.
Une petite amande fraîche.
Des petites amandes fraîches.
Oui. Ouais.
Vous auriez pu utiliser l'amandon de l'abricot en cassant les noyaux d'abricot.
Oui. Et vous pouvez tout à fait mettre les noyaux d'abricot dans votre sirop et conserver votre sirop et le réutiliser pour autre chose. Et le noyau d'abricot donne un goût merveilleux d'amande au sirop.
Par contre, il ne faut pas trop le mettre à haute dose parce que je crois que c'est toxique le noyau d'abricot.
Ça peut être toxique,
l'amandon d'abricot.
À haute dose, mais bon. Oui.
Et juste, s'il vous plaît, parce que j'ai tellement aimé ce sirop de cidre, les proportions avec le sucre et l'eau.
Alors, Manon. Les proportions, donc c'est 100 g de sucre pour 100 g d'eau. Et 100 g de cidre.
Ah,
donc, temps pour temps.
Temps pour temps.
Exactement.
Merveilleux.
Et après, on va vraiment. C'est important de venir contrebalancer avec un petit peu d'acidité parce que sinon, ça peut être trop sucré.
Superbe. Bravo. Et ce beurre blanc, même quand il a refroidi, avec sa texture pommadée, c'est vraiment
ça
étonnant.
Ça parvient à rendre sympathique des haricots verts, c'est dire.
Ouais. Ah, ça y est. Et oui, il est anti-légumes, Dominique Cutin, quand même. Il est dans cette émission. Il est dans cette émission depuis 10 ans. Les recettes de Manon Fleury sur FranceInter.fr à la page On va déguster. Isabelle Richard, vous avez une petite idée d'accord avec. Comme ça, là, spontanément, avec cette recette d'abricot.
Ouais, je voulais tester quand Manon a parlé tout à l'heure de la recette. C'est vrai qu'il y a une belle acidité là sur sa recette d'abricot. Et je voulais tester sur notre monovariétal de Cazaux Jaune,
oui,
qui est un cidre sec et fruité de l'année là. Et je suis contente parce que je trouve que ça balance pas mal.
Alors Cazaux Jaune, c'est un nom qui peut paraître barbare à l'oreille de nos auditeurs et pourtant vous citez une variété de pommes.
Ouais, une variété originaire plutôt centre-Bretagne Morbihan, donc on s'éloigne un tout petit peu de notre terroir cornouaillais, mais on en a quand même chez nous pour acidifier les cidres au lieu de les sulfiter, hein, les anciens faisaient ça. Et du coup, c'est une variété que nous on trouve mais absolument incroyable parce qu'elle a la particularité d'âme nature et généreuse d'être à la fois acidulée et légèrement tannique. Ce qui est très rare. Donc on appelle ça aigre amer dans le jargon. Et du coup, ça donne des équilibres. Du coup, quand on fait goûter à l'aveugle à des sommeliers, ils sont emballés parce que c'est très complet.
Oh là là. Voilà. Il y a à la fois de l'amertume, du volume aromatique, il y a une vraie, c'est sec, il y a un peu d'astringence. Enfin, c'est superbe. Franchement, là, c'est d'un équilibre. Cazaux Jaune.
Ouais.
Ça, c'est le nom de votre cuvée également. Sachant que nos auditeurs.
Le nom de la cuvée, c'est Casanova, parce qu'on aime bien s'amuser un peu.
Mais... Ah oui, d'accord, bah voilà, il faut être créatif, voilà. Évidemment. Où est-ce qu'on trouve vos cidres en un mot, notamment pour tous ceux qui nous écoutent?
Bah, ça dépend où ils habitent, mais dans pas mal de petits endroits sympas. Mm-hmm. Vous avez cité la cidrerie qui en fait partie, le Cistrot, la Pinardière à Redon, enfin, il y en a plein.
Mais, y en a plein.
Voilà.
Vous retrouverez toutes ces adresses sur notre carnet de mise en ligne.
Dominique, une autre idée d'accord avec Manon avant de passer à cette question cruciale du juste prix, s'il vous plaît.
Très rapidement, un cidre de Dordogne. L'idée, c'est quand même de renouveler l'imaginaire du cidre. Lui aussi, il est nouveau. Hein, c'est un peu la proposition d'aujourd'hui. Il s'appelle Maison Rouge et son domaine s'appelle Mathias Fory. Je ne suis pas un grand fan des cidres aromatisés, mais là, il a utilisé vraiment son terroir puisque ce sont des châtaignes de Dordogne.
Étonnant.
C'est magnifique. De la rose, de la mandarine, une bouche fine. Enfin, c'est un accord parfait. Merci Manon, je l'ai fait un peu à l'aveugle depuis chez moi, depuis le Cotentin, et ça fonctionne très bien.
Très bien, venons-en à cette question du prix du cidre, car évidemment la contrepartie de cette modernisation du cidre, de son succès, c'est des prix que l'on voit légèrement monter, alors que le cidre traditionnel avait la réputation justement d'être une boisson très très bon marché, souvent sous la barre des 5 euros.
Trop bon marché.
Ah, trop bon marché, alors là, vous mettez les pieds dans le verre. Oui. Dominique Cutin.
Mais oui, quelles promesses on peut former avec des prix? Par exemple, j'ai un super cidre à 3,75€. Formidable, tout le monde va s'en réjouir, moi le premier. Mais non, au final, quelles promesses on peut former avec ces prix-là pour que des jeunes s'installent? Première chose. Deuxième chose, un des freins du cidre, c'est sa mauvaise place au restaurant sur la carte des boissons. Vous avez les vins, après vous avez les sodas, vous avez les bières, et tout à la fin, vous avez un anonyme, cidre, C-I-D-R-E, pas de nom, pas de millésime, et ça vaut très peu cher. C'est très peu cher, donc les restaurateurs ne les mettent pas en avant. Il est à peu près normal, légitime, que les producteurs de cidre vivent de leur travail au même titre que les producteurs de vin.
Donc vous les encouragez à monter un peu leur prix, c'est ça?
Bien sûr, c'est un gage de pérennité, sinon on arrache les pommiers.
Quelle est votre position là-dessus, justement, Isabelle Richard, ça nous intéresse?
C'est un sujet compliqué, notamment pour les terres historiques de cidre, comme la Normandie et la Bretagne. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas produire aujourd'hui au même prix que ce qu'on faisait avec des corvées amicales et familiales gratuites, du coup, en termes de main-d'œuvre.
C'est-à-dire qu'en gros, on faisait appel aux copains, à la famille.
On avait cette manière-là de faire le cidre en simple.
Le ramassage des pommes.
Pour soi, avec des
bouteilles
de récup.
On mettait une mauvaise capsule, une mauvaise étiquette, et le tour était joué.
Et on ne payait pas de TVA, on n'investissait pas forcément. C'est vrai qu'on n'arrive plus à produire au même prix qu'avant. Voilà. Ensuite, il y a eu, je pense, une volonté aussi de certains collègues de revaloriser le produit en essayant d'en monter les prix aussi pour améliorer son image, parce que ça peut être parfois contre-productif d'être trop peu cher, en même temps que c'est assez douloureux à faire. Donc, c'est vrai que ça sert aussi la filière qu'il y ait des positionnements haut de gamme. Pour notre part à nous, on est un peu dans un entre-deux.
Oui.
On a envie que ça reste accessible et populaire, et on laisse le choix en utilisant un système de cuvée. On en a qui sont en nature intégrale, en zéro concession, qui sont entre 7 et 9 euros pour l'instant.
Mmh.
On n'a pas réussi à le faire tout de suite. Hein. C'est un long travail de pédagogie aussi, avec l'aide maintenant de plus en plus des sommeliers, des restaurateurs et des cavistes. Et puis, on a toujours une cuvée aux alentours de 4 euros, qui est une cuvée emblématique qui rassemble.
Ah, quand même, vous arrivez, on va pas parler de cuvée entrée de gamme, mais vous avez une première cuvée qui est à 4 euros.
Ouais, notre brut trad qui rassemble, sans chichi, quoi. Par contre, c'est quand même un enfer à faire, parce que c'est, voilà, il faut quand même que ce soit bon, et c'est quand même pas facile. Voilà.
Mathieu?
Alors, est-ce qu'une des solutions, il y a la voix du Yuki, qui nous écrit pour nous dire quid du cidre en Angleterre servi à la pompe et à la cidrerie, justement, vous m'avez envoyé Dominique Hutin, ils m'ont signalé qu'ils servent plein de cidre à la pompe, justement, parce que ça coûte moins cher.
Je vais vous le résumer en une demi-seconde. Ces ciders anglais peuvent avoir jusqu'à 90% de concentré, moins de 25% de pommes. On parle d'autre chose, ce sont des produits industriels. Fin de cette histoire, c'est autre chose. Les Anglais consomment 10 fois plus que nous. On pourrait s'inspirer de ce travail en pression. L'exemple est très bon, mais ce ne sont pas les mêmes produits. La réglementation est très lâche pour les ciders anglais. Faites goûter ça à un Normand, un Breton, vous avez deux morts sur la conscience.
Oui, c'est ça. Et on n'a pas précisé que votre activité de cidriculture s'inscrit dans le respect total de l'environnement, le respect aussi d'un patrimoine végétal, aucun traitement chimique, souvent prise de mousse naturelle.
Ouais, même on va plus loin que la réglementation bio, on est plutôt en zéro traitement absolu. C'est un peu du bon sens paysan, ça n'a pas forcément toujours besoin de label pour le faire, ça fait longtemps que c'est le cas.
Mmh.
Des choses très extensives, et on est plus proche de l'esprit de la biodynamie et du biocontrôle que du bio tout court, en fait.
Jean-Christophe de Rennes, et je peux pas ne pas lire ce message, il faut rendre à César ce qui lui appartient et au producteur Éric Bordelais d'avoir redoré le blason du cidre et d'en avoir fait un véritable vin de pomme. Éric Bordelais, alors je crois qu'il est producteur...
Dans le Maine,
château de Hauteville. Éric Bordelais, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, nous c'est un des premiers qu'on a été voir avant de s'installer.
Sûr, il faut lui dresser une statue, ils sont plusieurs. Moi j'ai fait le pari des très jeunes producteurs sur ce carnet de dégustation, mais les Marois, les Angles, les Lemasson, les Éric Baron, en Bretagne par exemple, les Éric Bordelais, oui, ce qu'on raconte aujourd'hui avec les jeunes n'est possible que parce que ces gens-là ont ensemencer une nouvelle culture du cidre.
Le carnet de cidre de Dominique Hutin, 120 cuvées dégustées, crash testées pour vous, à consulter sur franceinter.fr à la page On va déguster, Dominique.
Par exemple.
Et il est encore vivant. Merci beaucoup Isabelle Richard, des bouteilles à la mer, ce sont vos merveilleux cidres, plein de sentiments vivants, vibrants, qu'on peut trouver dans de bonnes adresses, tout ça est aussi sur notre site, la semaine prochaine. C'est notre dernière émission de la saison, avant nos programmes d'été, une émission qu'on a baptisée Sapide d'été. Je réunis pour l'occasion la bande dont on va déguster pour vous livrer sur un plateau nos bons plans gourmands de l'été. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.